aller chercher de la structure dans le bois, ou pas des arômes.
Ouais. Ok, donc de chauffe moyenne ou moyenne légère?
Moyenne basse.
Moyenne basse, okay.
Encore une fois, c'est comme les tailles. Si vous allez chez Zara ou chez Célio, vous prenez du M, il y en a qui va avoir. Pareil avec les tonneliers. Ce qu'on veut, c'est connaître la chauffe moyenne de Tarenceau, c'est connaître la chauffe basse de Sylvain, et avoir la même tous les ans. Et après, on fait notre assemblage. Et après, ce qu'on fait avec les 6, c'est que tous les ans, on met le même vin dans une barrique de chacun des tonneliers. Et on les invite tous les 3 mois à venir déguster à l'aveugle, à noter les vins.
Vous faites un benchmark.
Nous, on note aussi. Et l'an dernier, on en a viré un parce qu'il était toujours en dessous de la moyenne. Donc, soit on dose nos quantités d'achat, en fait. Et puis, si vraiment il y a un vrai défaut qualitatif.
C'est pensé, ça, du coup.
Parce qu'en fait, si c'est pas indiscret, alors c'est quoi votre fonction?
Moi, je m'occupe des finances et des ventes.
D'accord.
Mais bon, je m'intéresse à ce qui se fait aussi.
Bah oui, forcément.
Et après, sur les barriques, on a aussi cette année, ça c'est une nouveauté de cette année. Alors, ce qu'on faisait déjà, c'est qu'on analysait chaque barrique visuellement, extérieur évidemment, mais intérieur aussi avec une petite caméra. Cette année, on a mis un système qui capture l'air qui est dans la barrique, qui fait un vide, qui prend l'air, on envoie une capsule d'air par barrique au labo. On les teste toutes, une par une.
D'accord.
Pour vérifier qu'il n'y a pas de TCA.
Vous avez combien d'ouvriers pour le chai?
On a un maître de chai, une responsable qualité et 3 ouvriers. Okay. Souvent un intérimaire ou deux.
Ouais. C'est quand même beaucoup de travail.
Ouais.
Avec en faisant rien que ça.
Ouais, parce qu'il y a le soutirage à l'esquive tous les 3 mois, c'est un boulot. Hein. 2 mecs bien aguerris, ils font une trentaine de barriques par jour.
Par jour, oui.
Il y a 400 barriques tous les 3 mois.
C'est beaucoup de boulot.
C'est un roulement. Et après, il y a aussi autre chose qui nous prend de plus en plus de temps, parce qu'on voit plus loin, c'est les habillages.
Dans quel sens?
Ben, en fait, on sécurise beaucoup plus les bouteilles. Ah, et tout ça, on est obligé de le faire en interne. Parce
donc,
que
vous les sécurisez comment, en fait, avec les... Enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle. Il y a différents systèmes. Donc,
ouais. Alors, nous, on a opté...
Une puce dans le bouchon
Non. Non. Nous, on a opté pour... En fait, on est parti du principe que tout ce qui était puce et tout ça, c'était pas esthétique, puis tout le monde le fait, alors on peut le faire. Ce qu'on voulait surtout être sûr de savoir faire, c'est authentifier les bouteilles dans 50 ans.
D'accord.
Même si les matières sèches se dégradent.
La technologie évolue. Voilà. Oui.
Donc, le premier truc, c'est qu'on colle la capsule, ce qui, normalement, évite le risque de refilling, en fait.
Oui.
Évidemment, le bouchon est identifié, et puis ensuite, la bouteille est gravée. Alors, il y a écrit Château Cheval Blanc derrière sur le culot. La bouteille a aussi un petit gravage au laser avec un code,
un data
matrix.
Ah, ok,
d'accord.
Ouais. Ensuite, on a mis une petite étiquette de traça avec un QR code et une peinture qui contient un tagant, c'est-à-dire que nous, on peut lire si c'est notre peinture ou pas. On a acheté la longueur d'onde.
D'accord.
C'est
votre peinture.
Fait, d'ailleurs. Ouais.
Je sais pas.
Ok.
Et après, on numérote les bouteilles aussi, ça c'est nouveau. Et le dernier truc, c'est que ce tagant, il existe sur la contre, sur la capsule, et à un endroit gardé secret de l'étiquette frontale. Et puis l'étiquette frontale, elle est aussi volontairement micro-découpée, en fait, sur certaines des décorations. Il y a des petits découpages qui font que même avec un bon solvant, en théorie, vous déchirez l'étiquette.
D'accord.
C'est bien, ça. Est-ce que vous avez beaucoup de fraudes pour l'instant, remarqué ou pas?
Un peu. Okay. En fait, on a surtout beaucoup d'imitations qui ne sont pas vraiment des contrefaçons.
Ouais.
C'est plutôt des mecs qui déposent Clos du Cheval Blanc, Domaine du Cheval Blanc, Cheval Blanco, Cheval Blanqui, et puis surtout en Chine, etc. Donc ça, c'est plutôt des combats juridiques.
Et vous avez des personnes de Cheval Blanc qui s'occupent, enfin de LVMH ou...
Alors de LVMH.
Okay.
Ça, c'est une aide vachement utile.
Voilà, c'est centralisé.
Ouais.
Ouais, parce qu'ils font ça pour avec plusieurs maisons de groupe.
Voilà, c'est ça.
Ça, c'est top.
C'est ça, c'est pas mal.
Et après, pour la vraie contrefaçon, oui, on en a, on en trouve. Pas dans les dimensions de Petrus ou de Lafitte, mais on a envie de prendre le problème
sûr,
un peu en amont.
Pas...
Et puis on aimerait bien pouvoir continuer à reconditionner ou à réétiqueter des vieilles bouteilles pour les clients. Et si on veut le faire, il faut qu'on puisse les identifier, sinon on prend trop de risques.
Et vous avez une réelle demande dessus ou pas? Parce que, enfin, moi,
toutes les semaines.
Toutes les semaines?
Ah oui.
Parce que je sais que moi, quand j'ai eu le plaisir d'aller en Australie, et c'est quelque chose qui était vraiment super novateur au moment où j'y étais, et où il y avait une réelle demande, c'était pour Penfold Grange, et tout le monde voulait faire reconditionner, etc.
C'est pas une panacée non plus. Faut se méfier. Enfin, refaire les étiquettes, oui, bien sûr, si vous voulez, soit revendre dans une vente aux enchères ou je sais pas quoi. Oui, mille fois oui. Changer le bouchon, c'est une opération qui est violente. Hein. Plus le vin est vieux, plus c'est risqué quand même.
D'accord.
Alors déjà, il y a quand même... Par exemple, hier, j'ai rendu... C'était des 61. Le monsieur était venu avec 6 bouteilles. On lui en a rendu 4 parce qu'il y en avait une qui n'était pas bonne et une qui a servi à faire les niveaux des autres. Donc il faut quand même avoir vraiment envie de reconditionner.
Mais en même temps, donc c'est bien, vous les testez, vous êtes sûr que le client, au moins, il sera satisfait. Aussi. Donc il y a le côté vraiment super qualitatif.
Et voilà. Maintenant, vos bouchons, pour y en avoir une bonne garde. Non.
On n'a pas un recul suffisant. Si les clients veulent qu'on le fasse, on le fait. Mais nous, on l'a fait pour certains de nos millésimes.
Okay. En tant que testeur.
Sur le stock de cheval. Quand des millésimes vont vraiment trop loin, on sait que le bouchon ne tient pas et du coup, on les change. Quand ça s'étale dans le temps, on a des maturités qui sont pas homogènes.
Des coulures ou des choses comme ça.
Un peu sur le merlot. Plus à Quino l'enclos là qu'on va déguster. Mais sur cheval, on n'a pas été trop atteint par la coulure. Par contre, la floraison s'étend, donc du coup les cycles de maturation sont pas assez homogènes. Et du coup, ça, il faut absolument aller le rectifier au mois de juillet. En gros, à partir de trois quarts de la véraison, qui est le moment où les raisins changent de couleur, et ben, on peut voir visuellement où sont les raisins qui sont en retard. Donc on coupe les grappes. Donc vendange verte d'homogénéisation. Le but, c'est pas de faire moins, alors c'est la conséquence. Hein. On fait forcément un peu moins, mais par contre, on homogénéise fortement. Si on fait pas ça dans un millésime comme 2012, on peut pas vendanger quelque chose d'homogène. Et après, cet outil-là...
Sinon, il faut faire plusieurs passes.
Ouais, personne ne fait ça en rouge. Et même plusieurs passes... Je sais pas trop, parce que les baies rouges... Nous, on cherche trois choses. On cherche l'acidité, on cherche le degré alcoolique, enfin la maturité physique, et puis la maturité phénolique. Il faut qu'il y ait les trois le même jour. Donc faire plusieurs passes, ça signifie que de grappes voisines de 10 mètres, elles auraient les trois à plusieurs jours de différence. Bon. Nous, on essaye de cultiver chaque parcelle comme un ensemble homogène et pouvoir les vendanger.
Vous faites la vendange en verre ?
Oui, oui. Oui,
justement.
Pour l'homogénéiser.
C'est exactement ce qu'on fait. Et après, c'est du pointillisme au moment des vendanges, parce qu'avec cet outil-là, le but de l'outil, vous l'avez compris, c'était de multiplier le nombre de cuves pour que le travail viticole puisse arriver à son aboutissement. Et l'aboutissement, c'est quoi ? C'est de vendanger chaque parcelle quand elle est pile mûre. Sans se dire, attention, ma cuve, elle fait 300 hectares, il faut que je mette trois parcelles dedans, donc j'ai celle-là qui est super, vite, il faut vite que j'en trouve deux autres. Qui auraient peut-être été meilleures le lendemain.
Ouais, différentes cuves, des différentes hauteurs.
Voilà, il y a 9 tailles différentes.
Okay.
Alors ça se voit un petit peu ici, mais là on a les plus grosses. Et après, je vous invite à aller voir sur les côtés, ça descend jusqu'à 20 hectolitres.
Okay.
C'est vraiment une très petite cuve.
Alors, vous avez combien de parcelles ?
On a 45 parcelles.
45 parcelles pour 40 hectares, c'est ça ?
Ouais. Okay. Elles ont été redécoupées en intraparcellaires il y a une dizaine d'années.
Okay.
Donc avant, on est passé de 30 à 45 parcelles sans arracher de vigne. Mais voilà, en distinguant, on sait qu'au rang 3, on passe à la parcelle 2B, parce qu'il n'y a pas le même âge ou il y a un sol un peu différent. C'est surtout l'histoire de sol. Et après, donc...
Parce que les vignes les plus jeunes ont quel âge alors par rapport aux vignes les plus vieilles ?
Alors, les vignes les plus vieilles ont été plantées en 1920.
D'accord.
Donc elles ont 93 ans. Et les plus jeunes, tous les ans, on en plante. Mais avant qu'elles produisent du vin, il faut attendre 6 ans de jachère, 6 ans de production. Et avant qu'elles aillent dans le cheval, 8 à 10 ans.
Ah, du coup, vous segmentez aussi le petit cheval et le cheval blanc
Pas au vignoble.
Pas au vignoble, ok.
En fait, toutes les parcelles sont classées. Toutes les parcelles ont déjà fait du cheval. On n'a pas de parcelle, entre guillemets, condamnée à faire du petit cheval. On fait une sélection sur 20. C'est-à-dire, on garde chaque parcelle différenciée pendant toute la vinif et pendant 3 mois d'élevage. On déguste tout le temps. Et au bout de 3 mois d'élevage, on fait une dégustation d'assemblage. À l'aveugle, on assemble, on construit les deux vins.
Vous avez des homologues ou c'est vous en interne qui le faites
C'est en interne.
Okay, ça c'est pas mal. C'est un vrai don de pouvoir faire...
On a deux consultants. Il y en a un qui n'est pas extrêmement utile, qui vient 2-3 fois par an. Il est utile pour nous empêcher de dormir, pour nous dire tout est merdique, c'est pourri, vous avez encore tout raté, et puis qu'on reparte en pleurant et qu'on recherche mieux. Mais il ne fait pas le vin. Et on a un autre consultant qui nous sert principalement de laboratoire d'analyse. Là, c'est du travail presque quotidien. Au vinif, on emmène des échantillons 3 fois par jour.
3 fois par jour ?
Ah oui.
Et ouais, c'est pas loin.
Ce vignoble qu'on a acheté en 2008, on l'a situé dans Libourne, dans la ville de Libourne, au creux d'un détour du fleuve en fait. Donc en fait, on est dans
Libourne au sud alors.
Oui, avec des terroirs alluviaux. En fait. Parce que souvent, quand on dit les terroirs de Quinault, ils n'ont pas une bonne réputation à Bordeaux, ce qui est absolument pas mérité. Mais il y a des raisons pour ça, c'est que quand vous partez d'ici, plus vous vous rapprochez de Libourne, vers le bas de Pomerol et tout ça, c'est un peu sableux, c'est quand même pas terrible. Sauf que Quinault, en fait, c'est dans les bourrelets alluviaux du Quaternaire, c'est la proximité du fleuve.
C'est un peu argileux finalement.
Non, on manque totalement d'argile. Par contre, on a des graves sur sable. Très homogène.
Donc c'est grave et sable. C'est vraiment. C'est
hyper homogène, mais pas d'argile. L'argile, c'est la grande richesse de cheval. Et c'est vrai qu'il n'y a pas du tout à Quinault. Du coup, on s'interroge sur l'opportunité de planter des sauvignons, des cabernets sauvignons.
Celui-là, le cépagement, c'est quoi finalement ?
80% de merlot, okay. Et 20% de cabernet. Mmh.
C'est quand même très fin, enfin, même mais.
Ben c'est le but. En fait, à Quinault, c'est amusant parce que quand on l'a acheté à un monsieur qui s'appelait le docteur Alain Reynaud, okay. Qui était presque un chantre du vin de garage. C'est-à-dire, il allait très très loin, très très loin au chai. Et c'était pas un immense viticulteur. Et nous, on a tendance à être plutôt dans l'inverse, c'est-à-dire on va très loin à la vigne et on touche pas trop dans le chai. Donc on a dégagé toutes les machines de micro-oxygénation, de osmose inverse, etc. Et puis par contre, on s'est remis à travailler les sols, on a augmenté les surfaces foliaires, et j'ai allé chercher la fraîcheur qui pouvait manquer.
C'est almost 80%, yeah? 75%,
yeah.
Donc c'est ça, ça nous donne un vin avec beaucoup de fraîcheur. C'est des merlots vendangés tôt.
Anybody can forecast, for example, how long they should be kept before the opening? Is there somebody?
Le petit cheval pour l'ouvrir, combien de temps tu t'attends?
If we buy it 12, how long we should keep it? When is the first time we should open it? Maybe
I'd say seven to eight years.
7 to 8 years, because here they say first trial 10 years.
Yeah. We are drinking on the. The lunch table, we are drinking 2001.
One.
That's 12 years. 12
years, yeah. Yeah, five is still too much time,
Five is okay for tasting, not really on the table.
On for dinner or for food.
Oh, well, du coup, vous l'avez dégusté?
Non. C'est
mangé
avant
un
maturité
féminine. You must take one for the road.
Juste
avant la maturité féminine. Non, yeah.
Souvent, à Saint-Émilion, les gens ont tendance à se dire le merlot, c'est la structure, faut attendre. Okay. Et puis, comme ils ont trop attendu, derrière, ils extraient beaucoup, et puis du coup, c'est vide en milieu de bouche, et c'est une finale sèche. C'est dommage, parce qu'un merlot frais, ça fait des très jolis. Yeah.
Jeanne,
il y a une belle amplitude, beaucoup de rondeur.
Ah, pardon. T'es maudit. Non, je suis désolé.
On vient de commencer.
From 1 bite or 3 bites or 2 bites? 1 bite. 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 1 bite.